Vous êtes sur le point d'écouter l'émission de ceux qui aiment le rap d'hier et d'aujourd'hui, sans chapelle ni parti pris, où aucun album n'est intouchable et où tous les points de vue se défendent, l'important étant de comprendre ce qui se passe dans vos oreilles.
Auto-tune. Auto-tune. Hip-hop talk show.
Salut à tous, vous êtes sur Autotune, le talk show hip-hop. Toutes les semaines en podcast, on vous parle de rap en toute détente, sans se prendre la tête, quoique cette fois, on va peut-être un peu se prendre la tête, puisqu'on a décidé de faire une émission spéciale rap et philosophie. Et oui, on a trop d'auditeurs, on a décidé d'en larguer quelques-uns.
Non, c'est mesquin, tu commences fort.
Voilà, on a décidé de faire cette émission à la base parce qu'on a découvert que Vincent Céspedes, un philosophe respecté, médiatisé, reconnu, sortait un mini-album de rap intitulé Micro-Liberté. Et donc pour l'occasion, on s'est dit, bah, pourquoi pas parler rap et philo. Et parce qu'aussi, on a un blog qu'on suit, un blog où il y a des articles très intéressants d'une certaine Benjamin Veil qui parle de rap dans sa philosophie, qui fait de la rapologie. Et on l'a autour de la table avec nous. Salut Benjamin.
Bonjour.
Et bienvenue sur Autotune. On a aussi donc Vincent Céspedes qui se fait appeler donc Vince pour l'occasion.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue. Vous êtes donc deux philosophes. Il nous fallait aussi un rappeur pour parler concret. Et donc en dernière minute, on a La Craps avec nous. Salut.
Salut.
Donc La Craps, c'est notamment 42 grammes, L'Épreuve du Temps, donc deux albums où t'as prouvé que le rap à texte était loin d'être mort. Donc on est ravis de t'avoir avec nous pour parler rap et philo, et puis parce qu'il fallait aussi un peu redescendre le niveau du débat.
J'ai okay. quand même demandé... J'essaie de pas trop redescendre.
Ah si, toi si. tu vas le relever, mais c'est Ismaël okay. qui va le descendre un petit peu. Voilà, notre expert rap autotune, tu es là, et c'est parti pour parler rap et philo. On a une virgule qui arrive. Hip-hop talk show. Pour rentrer tout de suite dans le débat, moi j'ai envie de demander à nos deux philosophes, c'est quoi le rapport rap et philosophie? A priori, moi je le vois pas forcément. Vincent?
Il est à 150%. La philosophie est née dans la rue. La philosophie, c'est des gens qui disent l'état du monde, ça va pas, on doit changer des choses. Qui s'adressent à l'esclave comme à l'aristocrate et qui remet en question l'ordre établi. Il n'y a pas plus rock. L'origine de la philosophie, c'est rock. Et Socrate a été emprisonné et tué par l'État. Donc, on ne peut pas faire plus fort. Donc, on a une vision de la philosophie très mondaine aujourd'hui parce que ce qui se passe à la télé filtre une philosophie très universitaire, mondaine, bourgeoise. Mais la bourgeoisie, la philosophie, les philosophes bourgeois, en général, sont anti-bourgeois quand ils se mettent à philosopher, les vrais. Voilà. Donc, la philosophie, c'est... utiliser les mots, la parole, les idées, le verbe et la rhétorique avec tout l'art de la rhétorique, du discours, de la puissance d'un discours, avec même la sonorité du discours pour tordre les esprits, changer les mentalités, contester, voilà. Voilà, je crois.
Donc le point commun, c'est d'abord la rue, peut-être, hein, de
ouais,
là
le
d'où
peuple,
ça vient.
Le peuple, et la protestation, la contestation.
Ok, Benjamin.
Bah oui, au-delà du fait que la philo, ça pue la rue comme le rap, il y a aussi le fait que, si tu regardes bien, en fait, dans l'histoire de la philosophie et l'histoire de la pensée, il y a aussi des clashs, il y a des battles, il y a la manière dont chacun se répond par rapport à l'autre, il y a des crews. Finalement, t'as des filières, enfin voilà, t'as exactement la même démarche, j'ai envie de dire, que dans tout courant musical, et a fortiori dans le hip-hop, parce qu'il y a aussi tout un côté pluridisciplinaire de la philosophie. On fait de la philosophie morale, de la philosophie politique, comme on peut faire du graphe, comme on peut faire du rap, comme on peut faire de la danse hip-hop. Et donc, il y a cet aspect aussi pluridisciplinaire autour d'une seule culture, philosophique a priori, et puis la dimension hip-hop, mon casque est un peu grand, hein, donc
oui,
je risque de le perdre régulièrement.
Il faut que tu parles un peu plus près du micro aussi.
Voilà, je parle plus près du micro et mon casque est trop grand, donc oui, je suis toute petite. Merci.
Donc a priori, deux disciplines qui sont assez liées. Comment vous, ça a pu influencer votre philosophie, le rap, en quelques mots?
Bah, d'abord, j'ai écrit mon mémoire de philo. D'abord, j'étais toujours un peu dans une double culture. J'allais dans les bons lycées et j'étais toujours un peu le Zoulou. On appelait ça à l'époque un Zoulou. Complètement, j'étais dans le 93 et je traversais tout Paris pour aller dans les bons lycées. Donc j'ai eu toujours cette double, je sais pas, culture, mais en tout cas, environnement et surtout d'amis. Voilà, des amis très différents, de milieux différents. Et donc j'ai écrit mon mémoire avec de la du rap dans les oreilles. Le rap a toujours, dans mon livre, j'ai une quinzaine de livres, je scandais mes paroles comme du rap. Et d'ailleurs je faisais des rimes, enfin c'était du rap pour moi, mes 15 livres c'est déjà du rap. Après, c'est vrai que c'est, comme les médias ont insisté sur le côté rap, rue, avec un truc un peu dévalorisant ou alors très folklorique, du coup c'est vrai que ça peut choquer, rap philosophie, du coup ça peut choquer, mais en fait tous les contacts que j'ai eus, même avec des rappeurs, bon, je suis un ami d'Oxmo Puccino ou d'autres, c'est des contacts où on parle le même langage très très vite, quoi, utiliser les mots pour faire avancer, quoi, et pour avancer soi-même, donc...
Oui, Ismaël.
Non, bah, je voulais citer un article de Benjamin justement, et j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu. C'est un article où tu faisais une comparaison entre Lacrape, qui est ici présent, et Socrate et Ulysse. Alors, est-ce que tu dans c'est un vrai. Article qui s'appelait Comment le rap transforme nos ados en philosophes?
Ouais, alors c'était dans le cadre d'une série, en fait, où c'était le dernier article d'une série qui m'avait été pour le coup demandé par le œuf autour de rap et adolescence. Parce que c'est vrai que j'avais mis en avant la manière dont pourquoi finalement le rap résonnait autant à l'adolescence. Et c'est vrai que j'avais utilisé Lacrape, alors là pour le coup l'album que tu n'as pas cité, qui était Machine à écrire, qui était le premier album que Lacrape a fait en 2014. Et qui en fait, alors déjà à la fois par son parcours Lacrape et aussi par ce qu'il raconte dans les textes, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans quelque chose où il interpelle régulièrement son public. Il y a une dimension de dialogue au sens de construire un raisonnement entre vous et moi et pas le raisonnement de l'un ou de l'autre. Et puis il y a aussi toute cette dimension aussi de que moi j'aime beaucoup chez les Grecs anciens, donc quand je dis les Grecs anciens c'est même avant Platon, hein, et qui est du côté de la ruse et du voyage et de le parcours notamment, alors Lacrape vous en parlera mieux que moi, hein, mais son parcours aussi où il a quand même sillonné certains coins de France, il a pas mal baladé, et Ulysse justement dans son voyage, c'est pas un voyage choisi, c'est un voyage imposé par les aléas de la vie, mais qui permet malgré tout à un moment ou un autre de redécouvrir quelque chose de soi-même et d'apprendre quelque chose par rapport à son propre dépassement. Et moi, j'aime beaucoup chez les Grecs, justement, et notamment dans l'Odyssée, cette dimension de la ruse que je retrouve plus du côté banlieue, finalement, que j'en retrouve aujourd'hui dans Paris, enfin dans le milieu dit parisien. C'est-à-dire cette ruse, cette débrouillardise, cette façon de se débrouiller avec n'importe quoi. Et ça, pour moi, le rap, c'est ça, en fait. La culture hip-hop, elle démarre avec ça.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une ruse de... on fait croire qu'on fait que de la musique et pour certaines personnes que ça va rien dire, etc. Mais en fait, on fait passer plein de messages.
C'est un cheval de Troie, ouais.
Ouais.
Toi, Lacrape, comment t'avais pris en fait cet article de Benjamin? C'est quelque chose qui t'a parlé?
Ouais, super élogieux, donc forcément, c'est flatteur, tu vois. Ça aurait été difficilement... le contraire aurait été difficile, je pense, pour n'importe quel artiste. Mais ouais, je pense que là, mis le doigt sur un truc, c'est que j'essaye d'interpeller au minimum les gens qui m'écoutent. Si c'est juste pour lui dire, ouais, ça va pas, je pense qu'on est des milliers, voire plus que ça à le faire, tu vois. Donc si j'arrive à faire réagir un minimum... Après, j'ai pas non plus, je suis personne, donc tu vois, faut pas se dire, grâce à moi, les consciences vont finir éveillées, c'est pas du tout ça, tu vois, même si c'est un peu le but au final, tu vois. Voilà,
Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui devrait être dans la nature d'un artiste? Est-ce que du coup tu penses que ceux qui le font pas font pas leur travail d'artiste?
Surtout avec le rap particulièrement.
Non, absolument pas. Le truc c'est qu'il faut réussir à catégoriser les choses, tu vois. Regarde aux États-Unis ou même dans d'autres pays, Allemagne ou même les pays de l'Est où il y a du rap aussi. Ben il y a des raps très discothèques, des raps très conscients entre guillemets. Des raps plus agressifs, plus ghetto, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et que la culture, si on commence à la cloisonner, de toute façon, ce sera jamais bon. Donc ouais, il y a de la place pour tout le monde, autotune, pas autotune, texte engagé ou pas, ou juste insulter la police et vivre le quartier, ce que certains font. Il faut pas se voiler la face, c'est ce qu'ils vivent, tu vois, donc c'est ce qu'ils décrivent, tout simplement. Je suis pour tout.
Est-ce qu'il y a une spécificité du rap dans cette capacité à philosopher? Parce que finalement, il y a plein d'autres styles musicaux qui disent des choses. Pourquoi le rap particulièrement serait celui qui pense?
Bah parce que le rap d'abord débite beaucoup. Une chanson de rock, il y a quelques mots. Le rap, on peut vraiment envoyer un raisonnement, un texte, on peut déployer une idée. Le rap aussi a un truc guerrier. Il y a un truc quand même guerrier, même si on peut l'adoucir, il y a quand même ces deuxième et quatrième temps qui sont marqués, tous les jeux de... Donc c'est en fait le retour au corps. Moi c'est ça qui m'excite philosophiquement, c'est comment philosopher avec son corps, quoi. Et moi je l'ai encore en conférence, je viens des arts martiaux, donc je faisais de la philosophie et des arts martiaux à un haut niveau. Et j'avais cette rage, je l'ai toujours, j'espère,
comme Shuriken,
mais bon, maintenant j'ai 44 ans, mais j'ai cette rage, une colère à exprimer. Et donc l'idée, c'est comment faire renaître la philosophie à travers la colère et le corps. Et le rap exprime ça à 100%. C'est jubilatoire, c'est un match de boxe, le rap. Il y a un truc de jubilation pure quand on entend les mots, indépendamment du raisonnement. Et d'ailleurs, les premiers raps français, c'était super dur de comprendre les paroles, par certains. Et pourtant, c'était jubilatoire. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on adore alors qu'on ne comprend pas? Justement, c'est qu'il y a cette dimension, tu ne comprends pas, mais je capte mon auditoire à travers les sonorités, à travers la rage que je mets. La rage parle pour moi indépendamment même des mots.
Ça doit te parler, la Craps aussi, parce que bon, tu sors d'une émission où tu as dû faire un freestyle. Justement, l'engagement du corps, effectivement, c'est quelque chose d'important. En live, j'imagine qu'il y a une autre dimension à ton art.
Oui et non, après, moi je calcule pas trop ça, je suis pas dans les chorégraphies et tout, mais je pense qu'en live, c'est toujours une interprétation plus vivante, on dira. En studio, on essaye de faire un truc parfait, tu vois, faut que ce soit dans la boîte, que ça glisse, alors que tu peux te permettre de gueuler un peu, de donner plus d'énergie, je pense, en concert. Et je pense que c'est le cas. Donc.
Et toi, bien, Benjamin, par rapport à ce qu'on disait justement, pourquoi le rap particulièrement est porteur de peut-être plus de sens que d'autres musiques?
Bah, déjà en tant qu'auditrice, oui, il y a quand même quelque chose. Enfin voilà, il y a quelque chose que le rap vient interpeller, il vient donner matière à penser, il vient te choquer déjà, parce que moi j'ai tendance à considérer que de toute façon il n'y a pensé qu'à partir du moment où on est choqué. C'est-à-dire que on peut pas penser dans le confort déjà. Donc c'est aussi un des problèmes de toutes les cultures musicales qui quelque part se sont trop installées à un moment dans ce qu'on appelle classiquement le mainstream. Enfin et donc. C'est le courant musical, j'ai envie de dire, qui est aujourd'hui le plus lié justement à tout ce qui va être la débrouillardise, le fait de s'en sortir, le fait de devoir à un moment, excuse-moi, je parle mal dans le micro, le fait à un moment de devoir, j'ai envie de dire, prendre le mic, déjà, en soi, c'est aussi une façon de s'exprimer, de se mettre en avant, de s'exposer, qui en soi a un enjeu politique même, enfin citoyen, et que bah, justement, bah, ça c'est quelque chose qui, aujourd'hui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais développer quelque chose qui va amener une façon de raisonner, amener quelque chose de nouveau, raisonner affectivement et même musicalement, parce que moi je pense aussi qu'il y a aussi tout un érotisme là-dedans aussi, hein. Enfin, c'est-à-dire que voilà, le rap est aussi, enfin le hip-hop et le rap a fortiori, c'est quelque chose qui va te prendre aux tripes d'abord avant de te prendre à la tête, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, et ça te prend aux tripes et c'est comme ça que ça te fait penser, parce que la pensée elle commence par l'estomac.
Justement, il y a tout un débat en fait qui traverse le rap actuel sur, tu parlais de mainstream, sur le rap qui n'aurait plus de message, le rap qui serait que divertissement maintenant. Et moi, j'ai souvent tendance à penser que malgré tout, même pour pas mal de rappeurs qui n'auraient pas assez visiblement un message, en fait, il y a toujours un message.
Ouais, je suis d'accord avec ça. Peu importe que ce soit haine, pro, enfin tu vois, même un mec cro-blanc là, un mec du FN, enfin je sais pas, FN en tout cas d'extrême droite, tu vois, pour pas citer des connards. Et du coup, lui, clairement, il rappe et, enfin tu vois, ça veut dire que tout le monde a le droit de rapper au final et il y a pas de, il y a des gens qui le suivent et qui sont contents d'écouter ce qu'il dit, alors que, enfin moi, par exemple, c'est le contraire de ce que je fais, tu vois, donc c'est difficile. Mais c'est bien pour dire que tout le monde peut le faire et qu'il y a pas de.
Et même quand on fait pas de... Parce que maintenant, les cases sont dépassées, tu le disais tout à l'heure, entre rap conscient, rap pas conscient, etc. Mais même quand on fait du rap pas du tout conscient, ouais, du rap de divertissement pur, même là-dedans, si on cite par exemple un Booba, ouais, même là-dedans, il y a une philosophie ou une idéologie, c'est-à-dire de...
Mais
de...
une plume déjà, Booba.
Ouais, déjà, tu cites quand même Booba. Moi, je parlerais de Niska dans ce cas-là, quoi.
Ouais, ouais, mais même Niska, il y a des trucs très
ou
politiques
Jul,
au final. Même Jules.
Mais même oui. Jules, c'est-à-dire c'est la, en fait, la philosophie de se débrouiller tout seul, de tout faire soi-même.
Alors moi, il y a juste un truc sur lequel je suis pas d'accord, c'est que à partir de quand le rap reste une pensée, à partir de quand ça devient du pur divertissement? Parce qu'il y a quand même aujourd'hui du rap, c'est du divertissement et c'est quand même un peu l'inverse de la pensée.
C'est qu'une question de goût en fait.
Bah, y a quand même
que
du
tu
rap.
Le veuilles ou non, c'est de la musique, donc ça restera une question de goût. Toi, il y a un son, tu vas l'entendre, tu vas dire mais qu'est-ce qu'il raconte, parce que c'est pas ta vie, parce que tu t'as pas du tout le même cadre de référence que la personne. Mais au final, un mec qui va écouter Oxmo Puccino, un petit jeune par exemple de maintenant, alors que moi l'opéra Puccino je l'ai saigné, un petit jeune de maintenant il va l'écouter, il va se dire mais de quoi tu me parles, c'est pas ça que je vis moi, tu vois.
Oui, mais il y a quand même un rap qui aujourd'hui est fait pour vendre et pour faire du chiffre.
Non, c'est pas que le... En fait, comment expliquer ça? L'industrie a a vu que le rap marchait, était le filon, tu vois, entre guillemets. C'est ça qui vend le plus en France. Donc les gens se sont dit, bon, allez, on va essayer de mettre. Les majors sont venus, et forcément, dès que les majors rentrent dans un mouvement musical, comme dans le rock à l'époque, ça le change, ça le fait soit évoluer, comme aux États-Unis avec le hip-hop. Je pense qu'il y a des bonnes choses dans tout, tu vois.
Mais c'est un exemple qu'on a parfois cité même ici, tu vois. SCH, il n'est pas censé porter un quelconque message, et pourtant, c'est lui qui a été repris dans des manifestations loi travail. Parce qu'au détour d'une phrase, tu as toujours quelque chose, même si c'est tu peux avoir une philosophie nihiliste, quelque chose, tu vois. Un Booba, il prône ça depuis des années, et en fait, tu as l'impression qu'il n'a pas de message, et en fait, c'est un message, c'est le sien, mais ça correspond aussi à une époque, tu vois. Ce que disait la crâne.
Toi, Vincent, du coup, tu écoutes du rap depuis longtemps, comment tu vois l'évolution? Est-ce que tu continues à écouter du rap, ou est-ce que t'as plus de mal avec ce qui se fait aujourd'hui?
J'écoute, là c'est plus américain ce que j'écoute, ou même chilien, enfin maintenant le rap il y en a partout, il y a des chinois qui rappent, hein.
Donc même les chinois,
putain. Voilà, mais c'est plus une
découverte. C'était petit pour nos amis asiatiques.
Je veux dire, voilà, le monde entier rap, donc moi je m'intéresse à l'exploration, et je compose, donc c'est aussi en tant que compositeur que ça m'intéresse de voir comment ils mélangent. Dans mon album, là, j'ai mis des violoncelles, il y a un baryton coréen qui débarque, il commence à faire du Pavarotti. Bon voilà, c'est ces alchimies que je cherche. Moi j'ai grandi avec le rap, vraiment j'étais au tout début de tout début du rap, dans l'intérêt, dans les émissions sur TF1 et compagnie. Et c'est vrai qu'on n'est plus dans un rap, je dirais, hyper politisé, parce qu'il n'y a plus de message politique, y compris dans les débats. Il suffit de voir les débats de société. On n'est plus dans une logique très marxiste, alors que les années 70-80, on était encore là-dedans. Quel est le discours alternatif? Si c'est Mélenchon, il y aura peut-être un rap Mélenchon, ça existe déjà, je suis sûr, mais ça reste quand même assez... Voilà, donc il y a une nécessité de partenariat entre philosophie et rap, et d'ailleurs, le philosophe peut être le rappeur et vice-versa. C'est-à-dire qu'il faut créer des nouvelles propositions politiques. Et le rap manque, à mon avis, de puissance de proposition. C'est peut-être pas d'ailleurs son boulot.
Est-ce qu'on n'écouterait pas un petit extrait de...
Tu veux écouter quoi?
Vince, du coup, puisqu'on en parlait, Vincent. Ok.
Alors, juste pour resituer, du coup, Vincent, tu vas sortir, ou au moment où on écoute l'émission, je pense que c'est sorti, un mini-album. Hein. Il y a combien de titres dessus?
Quatre
titres. Ça s'appelle Micro-Liberté. Et du coup, on va écouter un titre, le titre qui est sorti en clip. Ça s'appelle On n'a pas, c'est ça? Sophia, si tu peux lancer le son.
Tout à fait.
On ne s'avance pas, on ne balance pas, on garde le profil et le référencement bas. On n'a pas le pouvoir, on se fait trop avoir. On n'a pas d'armes, mais des larmes dans les mouchoirs. Drame dans les tiroirs, charme dans les miroirs.
Donc tu es devenu Vince pour réaliser ton album de rap, pourquoi?
Parce que je sais pas.
C'est pourquoi cet album? Non, c'était la question, c'était pas sur Vince. J'ai bien compris que Vince c'était le diminutif de Vincent. Il me reste quand même un bout de cerveau. Mais pourquoi un album de rap?
Pour un album de rap, parce que je rappe depuis très longtemps. Mes amis le savent, et puis ils me poussent à chaque fois à dire, mais là, fais pas un roman, fais pas un livre, fais un album. Et je me suis ouvert vraiment à la réalisation de ma musique. Je suis pianiste et compositeur d'orchestre, et j'ai été challengé par une danseuse contemporaine pour faire l'électro. Donc j'ai dû réapprendre à faire, non pas de l'orchestre classique, mais de l'électro. Et là-dedans, je me suis dit, le rap, c'est trop tentant. Et donc j'ai fait le pas, parce que j'ai pris des cours, hein, de Logic Audio et compagnie, et je me suis plongé là-dedans avec délectation. C'est ça qui me manquait, en fait. J'avais tous les textes, j'avais tout ce qu'il fallait, mais il me manquait le beat, quoi. Et je me suis dit, allons-y, croisons l'orchestre et croisons la composition, voilà.
Du coup, sur cet album, moi, de ce que j'ai entendu, c'est quand même du sonorité très à l'ancienne. C'est du rap comme on le faisait avant. C'était une volonté de rendre hommage au rap qui t'a élevé?
Non, c'est vraiment ce que j'aime. Alors vraiment, pour le coup, j'ai aucune prétention là-dedans. J'ai essayé de faire bien les choses, pour moi, être très content du résultat. Je crois pas que les sonorités soient si à l'ancienne que ça. J'ai parlé de violoncelle, il y a tout un travail. Enfin, on a mis 3 mois pour faire 4 titres, mais non-stop. Donc il y a un boulot de dingue derrière. Pour moi, mais en fait le but là c'est de me contenter, moi je mise pas un copec sur ce que je fais au niveau de la promotion, de la vente et compagnie. Et d'ailleurs c'est un grand reproche que je fais au rap actuel, mais vraiment grand reproche, c'est que il y a beaucoup de rappeurs qui sont devenus capitalistes, et quand on regarde comment ils parlent de leur propre art, ouais j'ai vendu là, ouais j'ai pas vendu, ouais, on a l'impression qu'ils sont à la tête d'une multinationale pour ceux qui ont réussi, ou d'une start-up pour ceux qui n'ont pas réussi. Et ce discours hyper capitaliste de si je vends je pèse, et si je pèse, ça pour moi c'est l'anti thèse de la poésie. Et là, voilà, donc moi je voulais retrouver ce côté, on s'en fout du public, enfin du public, non, je me fais
c'est
plaisir.
C'est la réalité, en fait. Voilà. Ouais. C'est la réalité, c'est ça. Alors, le vrai problème. Bah, oui. Je pense.
Mais bah, le rap peut tenir tête au système, là aussi, j'imagine.
Oui, mais il est aussi pris, comme tous les autres, dans la société dans laquelle on est. En fait. Et c'est vrai que je pense que la confusion qu'il ne faut pas faire, c'est entre la culture hip-hop-rap et la culture commerciale, qui sont deux choses différentes. Après, pour réussir à un moment, voilà, on fait pas du foot au départ pour devenir footballeur. A priori, on rentre plutôt dans la musique parce qu'il y a quelque chose de l'art de la passion. Après, si ça marche, tant mieux, mais ça veut dire rentrer dans des logiques commerciales qui, donc, sont nécessairement capitaliste.
C'est pas le nécessaire, c'est juste sur le nécessairement que.
Aujourd'hui, c'est difficile de faire autrement.
Un cri, si c'est possible de faire autrement.
Du moment où on presse un CD ou on met un album sur une plateforme de streaming, ça va rapporter de l'argent, donc c'est forcément un commercial.
On n'est même pas obligé de presser un CD aujourd'hui. Donc on fait des clips avec des iPhones. Donc je trouve qu'aujourd'hui, en 2017, justement, ça peut coûter très peu. Les premières boîtes à rythme, il fallait les acheter. Là, maintenant, on a tout ce qu'il faut. Donc ça, on devrait assister normalement à une explosion délirante du rap dans tous les sens, et c'est vrai qu'il y a un truc de c'est la forme capitaliste hyper léchée, les clips hyper léchés qui fonctionnent.
Parce qu'il y a des clips qui fonctionnent complètement différemment aussi, sauf qu'ils sont pas forcément les justement c'est pas ce qu'on va te donner comme ça a priori, mais en plus, après, on est dans un monde qui est quand même extrêmement capitaliste. Hein, on est même plutôt dans l'ultra-libéralisme même que le capitalisme aujourd'hui. Donc, c'est relativement logique, finalement, que le rap, comme tout milieu culturel, à un moment, reflète la société dans laquelle il est.
Je ne sais pas si le rock des années 70 a joué le jeu du système. Je crois que, même s'il y avait de la drogue, etc., il y avait quand même une résistance qu'ils ont menée. Ils ont quand même bien joué, le rock. Ils ont quand même bien joué. Je veux dire...
Il est où, le rock, maintenant ?
Le rock... Bah, il existe, il y a du hard rock, du rock, ça, c'est aussi.
Non, mais je veux dire, il est où maintenant? Il est politisé, le rock? À notre époque, là, il y a du rock politique.
Quand on regarde la production, moi je parle de ce que je connais, le punk est ultra politisé, et les messages diffusés, enfin moi, des groupes de punk que je connais, c'est pour le coup par rapport même.
Médiatisé. Ah non,
même les Marilyn Monroe
aux États-Unis,
Ah non, mais il y a une dimension politique, mais de toute façon, même dans certains rappeurs mainstream, il y a une dimension politique. On parle de Booba, par exemple, je suis désolé, par exemple, un mec comme Booba, on ne peut pas enlever le nombre de références culturel auquel, enfin, sur chaque punch en fait il y a des références. Si on regarde bien un texte de Booba, il y a une punch qui est un truc pour faire réagir les jeunes, et derrière il y en a une punch hyper référencée que un moins de 18 ans ne comprendrait pas, parce qu'en fait c'est une question générationnelle. Donc on peut pas, même Booba, qui pour le coup l'archétype j'ai envie de dire du capitalisme, si on veut vraiment aller jusqu'au bout, qui a même été jusqu'au bout de la démarche en allant vivre aux États-Unis, donc clairement s'inscrire aussi dans la culture américaine, et ben malgré tout il y a de la pensée, il y a de la prise de position, et qu'on le veuille ou non, quand il fait un nougat avec quand je parle à la juge, je lui réponds waga waga, enfin, on sait ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il est quand même en train de rappeler qu'on traite les noirs comme des singes, qu'il y a quand même quelque chose là qui est quand même encore à avancer, et même sur les textes les plus commerciaux, moi je pars du principe qu'à partir du moment où, voilà, Lino disait qui prétend faire du rap sans prendre position, sauf que ça, cette phrase, elle a été très mal comprise, c'est que prendre un mic, c'est prendre position.
Mais il y a quand même un truc vrai dans ce que dit Vincent, c'est qu'aujourd'hui, les rappeurs, ils sont obligés de faire leur propre commerce, en fait, ils deviennent des commerçants parce qu'il faut qu'ils se battent pour être indépendants, pour vendre leur truc, et du coup, bah, peut-être qu'ils ont moins de place aussi pour exister en tant que poète, en tant que messager politique.
Moi je pense pas, après... Moi, ces derniers temps, j'arrive à vivre de la musique, grâce à Dieu, c'est magnifique, tu vois. Donc, je pense pas que... Et encore, moi, tu vois, je suis très peu connu par rapport à certains artistes. Je pense pas qu'il y ait de recettes ou d'obligations. C'est-à-dire que chacun le fait comme il le sent. Quand ça devient un métier, comme nous, on tourne quasiment tous les week-ends et on vend des CD en Fnac, etc., on est en distrib chez Musica, ça veut dire que c'est sérieux. Et ben, forcément, c'est de l'énergie, c'est du temps. Et si tu veux que ça fonctionne... Bah forcément, il faut mettre de l'argent dedans et que ça t'en rapporte. C'est comme n'importe quelle entreprise, et je parle pas d'une entreprise, une boîte, hein, je parle de n'importe quelle chose que tu vas faire dans la vie. Il faut investir, que ce soit de l'argent ou du temps ou de l'énergie, des pensées, tout ce que tu veux, forcément, ce sera toujours la même chose.
Et justement, je pense qu'aussi l'explosion du rap de ces dernières années avec... plein de moyens de communication, le fait qu'on puisse faire un clip avec un iPhone, etc., libère aussi pas mal d'artistes d'une pression des majors et d'une pression de devoir commercialiser, de se soumettre.
Exactement.
Voilà, ça, il y a beaucoup, beaucoup de
moi,
jeunes.
Moi, je suis pas en major et pourtant, j'ai des millions de vues sur la chaîne, ça veut rien dire, tu comprends, tu vois. C'est vraiment de se dire, on va mener chaque être humain différemment notre barque, de toute façon, déjà. Donc se dire, oui, lui, il le fait comme ça ou comme ça, je suis d'accord avec ça. Mais de se dire, le rap est devenu mainstream, ou je trans... enfin, ça fait grande phrase pour moi. Donc c'est juste ça que je disais après.
Et puis, ouais. Puis il y a un moment où il faut se rappeler aussi, quand on vit un peu la rue, on a quand même qu'un rêve, c'est d'en sortir. Hein.
Exactement.
Et qu'il y a un moment où il faut se le rappeler aussi, arrêter de misérabiliser ou de fantasmer la rue aussi. Hein. Il y a un moment où, voilà, non. Quand on rappe vraiment la rue, quand on la connaît, ça pue. Hein. C'est pas un truc dont on a envie de rester. On n'a pas envie de rester sur le trottoir, quoi. Donc, d'avoir un peu envie, d'avoir une vie, ouais, qui peut paraître un peu bourgeoise, au sens d'avoir une famille, une maison, enfin machin. Bah, j'ai envie de dire, c'est l'aspiration de n'importe qui aussi. Ouais. Aujourd'hui, c'est toute la classe moyenne. Hein.
Ouais. Toi, Vincent, dans cet album, t'avais un message général à faire passer, quelque chose qui traverse tous tes textes ou
Il y avait ma vision du monde, donc elle transparaît. Et notamment dans ces quatre titres, il y a le même procédé. J'adore moi les refrains où il y a plein de monde et c'est très mélodieux un peu. Mais je voulais faire une sorte de mélodie raga chantée par des filles, hyper sexy dans la voix. Donc voilà, j'ai essayé ça. Je voulais parler des nouvelles technologies. Je voulais parler de la société de la communication. Donc il y a beaucoup de références aux trucs modernes. On a le profil et le référencement bas. Voilà. Et puis tout ce qui est dans Boule à Facettes, c'est vraiment la nana qui est sur les réseaux sociaux, qui se prend des selfies à longueur de. Et en plus qui est comédienne, une vraie qui doit vivre. En tant que comédienne, et sauf qu'elle est maintenant en concurrence avec toutes les nanas du monde entier qui se prennent en selfie. Donc c'est sur le narcissisme contemporain, la société selfie, la selflix society, je l'appelle, l'image, on donne tout à Google, voilà. Donc c'est ça le l'angle d'attaque des trois, des quatre.
Est-ce qu'il n'y a pas trop d'idées à un moment donné, parce que ça reste de l'art, de la musique, est-ce qu'on ne peut pas à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas une limite au nombre d'idées qu'on peut mettre dans un rap? Parce que moi c'est vrai qu'en écoutant les titres, je me suis dit à un moment donné, j'en ai trop.
Ouais, moi j'en ai pas assez. Voilà, après c'est une question de goût. Moi le rap, j'ai une façon compulsive. Voilà, si je me mets à écouter le rap de notre invité, je vais l'écouter, le réécouter, le re-réécouter. Je suis hyper compulsif, donc s'il y a plein d'idées, tant mieux, parce que ça sera un truc. Voilà, il y a des albums pour moi qui restent éternels, que j'écoute et que je découvre tout le temps. C'est vrai que j'aime la complexité, même dans l'orchestre. J'ai une façon de traiter l'orchestre hyper complexe. Voilà, et souvent des réalisateurs, parce que je compose beaucoup en Russie pour l'orchestre, les séries télé, l'orchestre, c'est eux qui veulent des grandes musiques. Souvent, le réalisateur me dit, là, tu te calmes, parce que ce qui est intéressant, c'est la nana à l'écran, c'est pas ta musique. Voilà, donc je sais que j'ai cette envie de complexité. Voilà, c'est mon caractère.
Toi, la crap, c'est ce qu'il y a des fois où tu dis, attends, là, je dis trop de choses, il faut que je laisse l'auditeur respirer un peu.
Non, en tout cas, avec les nouvelles sonorités, il y a moins de place, entre guillemets, tu vois, musicalement, ouais. Je parle. Hein. Je parle vraiment musicalement sur les nouvelles sonorités qui sont plus lentes. Donc, ouais, peut-être je dis moins de choses, mais je vais pas me limiter. Si j'ai besoin de dire les choses, je vais faire un truc plus long, tu vois. Je pense que ça, c'est... Quand t'as une idée en tête, quand tu commences un son, tu te dis, bon, je vais essayer de faire ça, ça, ça. Et après, c'est comme n'importe quel... tous ceux qui écrivent, ils vont commencer par introduction, essayer de développer un minimum et conclusion, quoi.
Une dissertation.
C'est pareil pour un son, ouais. C'est ça, c'est une disserte. Hein.
Bon, je crois que c'est le moment d'écouter une petite dissertation de la Craps, alors, du coup.
Allez, ok. Donc, on va s'écouter, je crois que ça s'appelle.
C'est La Galère. La Galère. C'est extrait de l'album 42 grammes, un produit entièrement,
par
tu me dis
Money
si je me
Days.
Trompe, par Many Days.
Exactement.
On avait Swiftgad il n'y a pas très longtemps, qui a aussi un album entièrement produit.
Il est partout, Mani.
Par Many Days.
Il est très, très mauvais.
C'est la secte.
C'est ça.
D'ailleurs, le 12, juste un petit. Le 12. C'est là dans quelques jours, il y a Kill the Beat à l'alimentation générale, justement spécial Money Days, avec Artigan qui viendra chanter, logiquement moi aussi un petit show de 20 minutes en surprise.
L'émission sera déjà sortie malheureusement, mais voilà.
Vous auriez pu y aller. On écoute ça, ça s'appelle La Galère.
Vous pourrez pour la prochaine le 9 novembre.
Ok.
Les yeux à FIFA, et je reçois plus de lettres des huissiers que de la MIFA. C'est stressant, je prends la tête comme si les autres suffisaient pas. J'ai vu le bon exemple dans ma...
Je rappelle que les extraits sont très 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 courts par SkyTunes, sinon nous sucrent les émissions, donc c'est une règle un peu à la con.
Allez, excellent.
Mais allez.
C'était très très bon.
J'espère que vous avez vraiment aimé.
Voilà, on espère que ça vous donne
envie de l'écouter.
Pour La Craps, le poignet de punchline, un freestyle qu'il a fait connaître, notamment pour Give Me Five, ce sont des Belges, et il avait tout tué sur ce freestyle.
Il y en a trois maintenant.
Il y en a trois maintenant. Ouais.
Moi, j'avais une dernière question sur l'album, sur ton album, Vincent. Est-ce qu'à un moment donné, on dit que le rap fait de la philosophie, mais est-ce qu'à un moment donné, un philosophe peut faire du rap? Est-ce que le statut de la personne qui fait du rap est important ou pas? Est-ce que toi, par exemple, si t'écoutes, je sais pas, moi, un homme politique qui demain sort un album de rap, ça
tant
va...
que c'est pas Christophe Barbier, ça va.
Non, mais est-ce que toi, tu te dis que ton album, il va forcément pas être écouté comme un album de rap normal?
Oui, mais Mais moi, c'est du luxe pour moi. C'est vraiment un truc. Voilà, je vais pas arrêter. J'ai créé mon label et je vais signer des artistes et je vais pas arrêter d'en faire. Ça, c'est une certitude. J'ai adoré l'expérience. J'ai adoré cette audace que j'ai eue et voir dans la tête des gens. Et en fait, voilà, vous m'invitez. Je suis plutôt. C'est la prétention qui tue, quoi. Si on fait ça avec prétention, là, on est mort tout de suite. Et voilà. Mais moi, il y a tellement. Enfin voilà. Je fais ça pour me. C'est une envie, c'est un délire. Je l'ai fait bien au niveau de la prod. C'est bien.
Sérieusement,
fait.
Sérieusement, proprement.
Voilà. Oui, c'est propre. Voilà. Déjà en philo, je prends pas la grosse tête. J'essaye vraiment de travailler sur moi, même quand il y a des succès. Voilà. Donc le rap, évidemment, a fortiori.
Benjamin, comment tu vois cet album de rap fait par un philosophe?
Bah écoute, moi ça m'évoque un titre de Lucio que j'aime beaucoup, Lucio Bukowski, hein, là pour le coup qui est un mec où il y a de la pensée, hein, ouais, on peut pas l'enlever. Et ce titre, c'est si Chopin avait eu une MPC, Baudelaire aurait rappé.
Okay. En fait.
Et j'aime beaucoup l'idée en fait, parce que je trouve que c'est exactement ça, c'est-à-dire que je pense que Nietzsche aurait pu rapper.
Il rappe, je pense, déjà.
Bah, ouais.
C'est le sommet de la prose allemande.
Il est plus là.
Non, mais même quand on lit ses livres, en allemand, c'est
incroyable. Oui, non, mais il y a une vraie musicalité. En plus, c'est un poète. Enfin, voilà, c'est pour ça que c'est si compliqué à comprendre, hein, d'ailleurs, hein, Nietzsche. C'est qu'en gros, il faut le prendre comme un Booba. Hein. Donc, il faut. Non, mais il faut analyser les références derrière qui sont cachées.
Nietzsche
quoi.
Et Booba, oui, ça passe.
Ça passe, nickel.
Avec des punchlines, hein, deviens après, ce que tu es, c'est la punchline de Nietzsche.
Ouais, après, sur la dimension. Puis, il y a plein de philosophes qui ont été repris par des rappeurs, surtout. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est quand on voit justement les liens qu'il y a entre une connaissance assez large finalement de la culture philosophique et la manière dont c'est transposé dans le rap. Après voilà, moi ça m'avait amusé, moi je citais systématiquement un rappeur dans chacune de mes dissertes à la fac, que ce soit voilà, en terminale, j'avais écrit la technique socratique qui m'amusait pour en fait juste essayer de... Je reprenais mes cours de terminale en fait et je les rappais quoi, enfin, et on avait écrit des trucs, comme à l'époque, parce que je dis à l'époque parce que c'est les années 90, donc oui je suis vieille... À l'époque, tous, quand on rentrait un peu dedans, on s'y mettait. Voilà, on graffait un peu, on dansait un peu, on rappait un peu. Ça veut pas dire pour autant qu'on est devenu des rappeurs. Enfin, voilà, c'est aussi une chose différente. Moi, j'aurais tendance à me dire que moi, de ma place aujourd'hui, je suis plus une auditrice, déjà. Donc, ce dont je rends compte, c'est de comment je reçois le rap. Aussi. Et moi, j'aime bien cette dimension d'être plutôt une espèce de caisse enregistreuse, enfin, du sens, quoi. Je suis plus là pour donner du sens, pour reformuler un peu autrement quelque chose que l'artiste a formulé. Mais chacun, pour moi, quelque part, aujourd'hui, chacun sa place.
Et il y a aussi la volonté, dans ton travail, je pense, de prouver aussi à certaines personnes qu'il y a ça dans le rap.
Il y a un petit côté militant.
Il y a Phil Cut à la base, non, de ton travail.
Alors,
non, alors, oui, mais on a préparé l'émission.
Ouais, je vois ça. C'est vrai que mon premier article a été en fait dans le Nouvel Obs, a été une réponse en fait à quand Finkielkraut a comparé en fait les propos racistes de Morano à Booba. En fait, en disant que c'était exactement la même chose et que
si on taxait Morano de racisme, on devait aussi dire que Booba était un raciste
anti-blanc.
Voilà,
et alors qu'on était là pour moi sur une confusion, là même d'un point de vue philosophique, hein, sur une confusion des places et des rôles qui n'est pas du tout la même. On ne peut pas traiter un artiste et un politique sur le même niveau.
C'est plus que philosophique.
Ils n'ont pas du tout la même fonction sociétale. Donc voilà. Et donc c'est parti notamment de là, mais c'est aussi parti en effet d'une. Voilà, moi j'ai 15 ans quand je commence à vraiment rentrer. Dans tout ça, et il y a quand même pendant longtemps, moi j'ai vécu quand même ce truc de le rap est une musique de dégénérer, c'est quand même ce qui est plus du tout le cas aujourd'hui. Hein.
Sous-culture d'un alphabet,
surtout pour une femme aussi. Là pour le coup, là encore aujourd'hui, ça a changé. Mais là je dis ça pour hein, tu sais. En attendant, voilà, aujourd'hui. C'est moins le cas. À l'époque, on était quand même vraiment sur quelque chose où le rap était très décrié. Et d'entendre systématiquement de Finkielkraut à Malek Bouti que le rap, de toute façon, était un truc qui ne pouvait que amener les jeunes à être dans l'inculture, moi, est quelque chose qui m'oppresse aujourd'hui. Parce que je me suis construite avec ça aussi. Voilà, on fait partie d'une génération, Vincent et moi, qui avons grandi avec l'émergence de ce mouvement-là, avec l'émergence et toute l'ouverture des possibles que ça a représenté, c'est-à-dire la manière de pouvoir faire du beau avec du rien. Voilà, ça c'est très sélinien, c'est très nietzschéen aussi. Voilà, et ça c'est juste magique, parce que typiquement dans le rock on avait besoin d'avoir un studio, d'avoir des instruments, dans le punk aussi, là pour le coup avec le rap on n'a plus besoin de rien à part soi-même. Ça c'est ça que moi j'avais envie de défendre et de montrer que à travers le rap, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce que c'est pas ma question, moi je rentre pas dans le qualitatif de ce qui est bien et ce qui est pas bien, c'est pas mon problème, hein. Mais par contre de montrer que dans tous les courants, ça dit quelque chose, ça raconte quelque chose de la société, et surtout, et ça c'est un peu l'objet de mon livre qui va paraître mi-décembre aux éditions Face Cachée.
On le redira.
Donc c'est l'idée que ça poursuit surtout cette, pour moi, cette tradition des Lumières qui est de l'esprit critique, la réflexion sur les limites, la réflexion sur les bases et les principes de la République, et qui vient toucher à finalement tout ce qu'on vit tous les jours au sein d'une République une et indivisible, même avec les rappeurs.
C'est beau, est-ce qu'on s'arrêterait pas là-dessus ?
Alors juste une question pour Vincent, du coup, sur ce regard sur le rap, parce que toi tu dois côtoyer quand même des gens qui sont pas forcément proches de ce milieu-là, comment ils voient ton album ?
Je côtoie que des gens qui adorent le rap.
D'accord.
Je peux même pas entrer en communication avec quelqu'un qui dit le rap j'aime pas, c'est absolument impossible.
Okay.
Cette génération, bah voilà, il y en a plein qui adorent le rap, qui ont grandi avec du IAM, NTM, Express D et tout ça, et je côtoie que ces gens-là. Ça fait partie des préjugés aussi. Le rap aujourd'hui, tout le monde en a mangé. Ça a quand même révolutionné. Le rap, ça a quand même révolutionné la poésie d'aujourd'hui. Enfin, redonner vie. On était moribond. On avait une variété. Et d'ailleurs, la variété française, elle est encore. Moi, j'ai du mal à adhérer. Ça donne tout d'un coup, effectivement, à la fois la possibilité du fais-le toi-même, qui est un peu punk dans l'esprit quelque part. Et puis à la fois l'idée hyper hyper simple de tu peux épater, même si t'as pas lu de livre, même si tu peux quand même utiliser l'oralité pour défoncer tout. Et ça, c'est magique. Et un petit gamin de 15 ans peut le faire, quoi. Ça, c'est fondamental. Et puis il y a le rap aussi. Sénégalais, le rap algérien, le rap marocain. Et là, au Sénégal, ils disent la vérité sort de la bouche des rappeurs quand même. Hein. Ils disent à haute voix ce que personne n'ose dire, et notamment la politique. Et ils ont vraiment une conscience politique qui aide le peuple.
En Russie
et
aussi.
C'est
en
le
Russie
collectif Yanamar au Sénégal qui a renversé Ouad.
Exactement.
Ouad,
exactement. Et la révolution tunisienne, il y a eu des voix contre Ben Ali. Donc c'est puissant. Enfin, on a là une arme démocratique extrêmement puissante. Ce que j'aimerais, parce que je peux pas m'empêcher de dire ça peut toujours être mieux. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les rappeurs prennent conscience de cette... Certains, ils en ont conscience, mais qui est que ça se fédère. C'est bien, parce que là, je vois que tu viens et puis tu as des amis. On voit un groupe, on voit une entité. Et c'est ça, pour moi, l'avenir.
Un collectif.
Voilà, le collectif. Le collectif, mais ouvert sur le monde. Pas fermé, hein, version secte, mais ouvert. Parce qu'on parle du graphe, on parle de la danse, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a de la philosophie, il y a des gens qui font des discours, il y a des gens qui pensent. Et il faut que le collectif s'élargisse à
ça, c'est
à
la médiatisation uniquement. C'est le manque de médiatisation. Mmh. Parce que tout ça, il existe,
ouais,
en fait.
Puis
il existe à la base.
Le désir de se mélanger.
Et parce que pense qu'on renvoie une image de division qui n'est pas vrai aussi, hein. Enfin, c'est-à-dire que
les
oui,
médias, on voit.
Voilà, c'est pas parce qu'on parce que certains sites vont parler essentiellement des clashs et des batailles à deux balles entre machin ou truc, ou finalement même eux s'en foutent, parce que ça c'est la réalité.
Enfin, ça fait
c'est de l'amour,
mais voilà,
moi,
ça
bien.
Fait du bad buzz, quoi. Enfin voilà, mais en soi, voilà, la question de la réunion, il suffit d'aller à un concert, il suffit de voir le nombre de festivals, il suffit de voir les cyphers, voilà, tout ça c'est quand même des moments qui sont l'esprit hip-hop. Voilà, et qu'il faut se rappeler.
Ok, bon, on termine peut-être juste, je voulais faire un tour de table sur le rappeur pour vous qui vous a fait dire que le rap était une philosophie, Ismaël.
Ah non, je termine.
Tu t'as pas le droit de dire Tupac. Hein. vas-y.
Non, c'est dur.
Vas-y.
Je sais pas.
Un rappeur français. Hein.
Un rappeur français.
Ah oui, qu'on puisse aller écouter quand même les paroles. Parce que moi, l'anglais, je comprends pas.
Je citerai Bustaflex, qu'on va recevoir bientôt.
Ok. Vincent, toi, si t'as un rappeur ou un groupe qui t'a. Voilà, où tu t'es.
Suisse, ça va, c'est français.
Suisse, ça va, ouais.
Alors, tu parles du passé, hein, tu parles pas d'aujourd'hui.
Comme tu veux.
Je découvre en ce moment Lagal, qui est une Suisse, libanaise suisse, et j'aime beaucoup. C'est un peu dépressif, mais j'aime beaucoup ce qu'elle dit.
Oui, c'est assez dépressif,
ouais,
mais c'est
un peu.
Et toi, Benjamin,
je vais citer un mec d'aujourd'hui que j'aime beaucoup, là, c'est Ornette La Frappe.
Ok. Ouais, qui fait un bon carton aussi.
Qui fait un bête de carton, qui fait un truc vachement bien, et notamment un titre que moi je trouve sublime qui s'appelle Maghrébin.
Ok.
Et qui, là, pour le coup, est à écouter, à regarder de près. C'est du moderne, donc il ne faut pas penser la pensée pouvoir capter la pensée en linéaire. Hein.
Ouais.
On est vraiment sur de la déconstruction, et puis il faut toujours penser qu'il y a une punch entre deux qui vient dire autre chose. Donc ça, c'est une structuration que ma génération doit apprendre, aussi pour bien comprendre les textes. C'est qu'en fait, voilà, c'est une ligne sur deux, quoi. Mais derrière, voilà, ce mec a un truc, une énergie qui est géniale. Il a une maturité pour ses 19 ans, un peu comme un Youssef Swatz aussi, complètement un autre genre, mais qui est un jeune aussi. Je trouve qu'il y a une vraie maturité. Et moi, j'aime bien entendre des jeunes comme ça, qui ont 18-20 ans, du haut de mes presque 40. Moi, je trouve que c'est vachement intéressant d'avoir des jeunes qui continuent de penser, qui continuent de prendre le mic, qui continuent de raconter des choses, même si c'est des choses qui vont aussi potentiellement plaire à des gars qui vont écouter parce qu'ils veulent autre chose que de comprendre des trucs de la vie.
Ok, La Craps, toi, t'avais un rappeur qui t'a marqué par ses textes.
Salif, ouais.
Salif.
Mais bon, comme beaucoup de rappeurs, j'ai l'impression que ça fait cliché. Cool Chain et Salif, on dira comme ça, on en met deux.
Bah, c'est cliché, cool mais ouais, moi je dirais Cool Chain aussi. Hein.
Cool Chain, ouais.
Moi j'ai pas donné dans les vieux parce que c'est difficile mais... de faire des choix.
Ok, bah je vais demander à Sophia le générique parce qu'on a déjà un peu explosé le timing, mais bon, quand on discute comme ça, c'est dur de faire court. Donc c'était Autotune, une spéciale rap et philosophie. Le talk show, vous le retrouvez toutes les semaines en podcast, notamment sur iTunes. Merci à tous ceux qui nous suivent, à tous nos fidèles. Merci à nos deux philosophes, donc Vincent Cespedes, Vince. Donc l'album Micro Liberté, il vient de sortir, où on peut l'écouter partout.
Toutes les plateformes.
On peut rappeler un site
oui,
internet.
Recordlesscompany.com.
Ok, donc allez écouter ça, allez vous faire votre idée. Benjamin, ton blog, le blog où tu écris?
C'est le blog de Mediapart, Benjamin Veil de Mediapart.
Ok, vous tapez Benjamin Veil sur Google, allez voir, il y a beaucoup d'articles déjà, et vous allez voir qu'on peut effectivement faire de la philo avec du rap, c'est génial. La Craps, est-ce que tu as une actu, un projet qui va sortir, des scènes?
Il y a un projet, ouais, il y a des scènes, justement, le 12, là, on va être là, à Paris, à l'Alimentation Générale.
Vous auriez pu y aller, ça, toujours.
Ouais.
Et on peut suivre ton actu quelque part?
Et bien sûr, ouais, tous les réseaux sociaux, La Craps officielle, un peu partout, il faut check ça, YouTube, et voilà.
Et bah allez écouter ça, merci.
Et tu seras pas à Cergy le 26 novembre?
À Cergy le 26 novembre.
Voilà, Cergy le 26
novembre. D'autres, je suis nul en promo.
Et bah on mettra ça toi.
Et vous sera justement avec Youssef Swatz aussi, justement.
Ouais, et vous retrouverez La Craps dans le prochain Rentre dans le Cercle numéro 6 avec
Youssef. Le 7, je crois, mais bon.
Le 7, ok.
Voilà, okay, Ismaël, toujours premier et très pointu sur l'actu. Merci Ismaël, merci Sophia à la technique.
Merci à vous.
Merci à vous pour l'invite.
C'était une émission du Poste Général.